Sofiane Oudino, alias le Bouzoulouf. Sofiane, ça va? On balance le générique ou pas?
C'est parti.
Allez, on y va, on balance. On va mettre. T'entends ou quoi? T'entends bien? Voilà, c'est bon. C'était pas du rail, hein, comme je t'avais dit. Hein. Sofiane, comment tu vas?
Ben, ça va, au top, merci, et toi?
Ouais, ça va, tranquille. Hein. Tout se passe pour le mieux?
Ça va, au top. Travail, sport, famille, vraiment. Voilà.
Rien demander de plus, la santé, tout va bien.
Voilà.
Donc, Sofiane, comme je disais, combattant MMA professionnel hein, depuis un moment maintenant. Ben Sofiane, ce qu'on va faire, on va commencer par le début. C'est quoi ta story, Sofiane, avec le MMA, voire même le sport. Hein. Je sais pas si t'as fait d'autres sports avant le MMA, mais comment bon, on va rester dans le sport de combat, tu vois, c'est le thème du podcast. Ouais. Et tu vas nous expliquer comment t'as connu le MMA comme ça, ton premier pote à la salle de sport, tes premiers entraînements, comment t'as connu ça?
Bah en fait déjà j'ai connu le MMA avec à l'époque le Pride et tout.
Mmh, donc tu regardais?
Je regardais et ça passait aussi sur Eurosport. Tu te rappelles l'ancienne chaîne hein, Eurosport 2?
Ouais, Eurosport 1, 2.
Voilà, je regardais sur ça, sur la parabole, je traînais au quartier de mes grands frères, que tu connais, Momo et Karim.
Ouais.
Au centre, à la Madesque, il y avait plein de gens qui regardaient beaucoup ça et tout. Et on regardait sur des DVD.
Ouais, à l'époque, ouais.
Et en parallèle, moi, dans mon quartier, à M, il y a Michael Delvalle, que tu dois connaître.
Ouais, c'est un des premiers qui a commencé le MMA chez nous. Hein.
Et lui, ici, c'est l'un des tout premiers qui a fait du MMA. Et à l'époque, ben moi, je le voyais s'entraîner tout le temps. Il me disait, viens à l'époque. Mais moi, je disais, toi, j'étais un zonard, un traînard, t'as eu.
Et à cette époque-là, t'étais pas trop dans le sport ou enfin, t'étais pas sport du tout?
J'étais sport, genre, je jouais dans le quartier, je m'ai bien regardé, mais voilà, t'as vu, je pratiquais pas.
Ouais.
Et donc, j'étais un petit zonard, un petit traînard, t'as eu. Un mec de quartier, comme on dit, toi. Et après, ben, Michael, il a ouvert sa salle à M.
À M.
Et j'ai commencé à aller. Et de là, j'ai pris goût. Après, j'avais arrêté. Après, je retourne, j'arrêtais, je reprenais et tout.
C'était pas à fond. C'était occasionnel.
J'étais comme je dis beaucoup de beaucoup. J'étais un intermittent du spectacle. je repartais. Ouais. Et après un moment, t'as vu, j'ai commencé à vraiment prendre goût aux entraînements et tout.
Sérieusement.
Et en fait, petit à petit, ça m'a remis dans une bonne routine de bouffe, de vie. Ça m'a écarté certaines choses. Et j'ai commencé à prendre encore plus goût. Après, Michael, il a dû fermer sa salle. Du coup,
Excuse-moi, Sofiane, t'avais quel âge déjà à cette époque-là où tu étais un intermittent du sport, du spectacle?
Et tu comptes, je devais avoir 26, 27.
Wow.
C'était un peu tard quand même par rapport aux jeunes de maintenant quand ils commencent à 18, 19, 20, tu vois, ou certains même à 20 ans, ils ont déjà des combats, même plein en amateur et tout ça, tu vois.
Oh ouais, non, c'était tard, super tard.
Ah ouais, et avant ces 26 ans-là, t'étais un sportif intermittent, vite fait, quoi.
Voilà, j'allais pas à la salle de muscu, t'as vu, je veux... avec les sahab au quartier, je faisais un foot en salle par semaine. C'était suffisant.
Ouais, c'était bon, ouais.
C'est vraiment pas de sport, pas de vélo, rien, t'es. Rien du
Pas,
tout, voilà.
ouais, pas une bonne hygiène de vie, quoi, à la vite
Voilà.
fait.
Voilà, comme tu dis, à la vite fait, à part manger, dormir, squatter, tout. Il n'y avait pas grand-chose de, on va dire, chose de rentable.
Ouais. Et du coup, tu as croisé Michael Del Valle, tu l'as vu s'entraîner.
Voilà.
Il t'a chauffé entre guillemets, viens à la salle, viens faire un peu de sport, de combat, tout, de forger un mental, une hygiène, une certaine hygiène. Et vraiment, vas-y. Donc, 26 ans, c'était intermittent. Et de l'intermittence là, à sérieusement, il s'est écoulé combien de temps où tu t'es dit, je vais aller.
Moins de 6 mois où j'ai commencé à prendre goût, toi.
T'es sûr de ce que tu veux? Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt, en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi! Tu vaux mieux que ça! Et tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie.
Jusqu'à atteindre les 100 kilos. Et c'est là que je me suis dit, faut que je me reprends en main, toi.
T'es monté à 100 kilos.
Ouais, moi, je suis monté à 100 kilos.
Mais les gars, c'est un
Voilà,
délire.
100 kilos, là.
Pour moi, il m'a
Maintenant,
choqué complètement.
vous voyez, j'avais une tête plus grosse, toi. Mais
Ouais,
sur
donc.
mon corps, ça ne se voyait pas trop, toi. Mais bah, en plus, ça monte, alors, ça vient un peu large, les Lacoste
Voilà,
larges et tout.
un peu US.
Voilà. Et après, bah, j'ai commencé à vraiment prendre goût. Après, lui a fermé son club. Il a dû fermer son club. De là, moi, j'ai taillé dans un autre club.
T'es parti
Où.
où avec Michael Del Valle, c'était quoi? Il y avait ouvert un club genre loisir pour tous les jeunes du quartier, ou bien c'était vraiment, il y avait des compétiteurs et tout déjà à cette époque-là?
Commençait à avoir les compétitions à l'OFC.
Ouais, en Belgique.
Voilà.
En Belgique.
Et voilà, mais après, du coup, il a fermé. Je suis parti dans un autre club, donc à Villeneuve, où je suis resté beaucoup d'années.
Ouais, moi je t'ai connu, j'ai pas le souvenir que tu étais chez Del Valle. Moi je t'ai connu, c'était bah, à Villeneuve avec Chaban,
Voilà.
GNFC.
Voilà, donc j'étais là-bas, où j'ai beaucoup appris, où j'ai énormément appris au début et tout. Et j'ai commencé à faire mes combats à l'OFC. J'ai fait 4-5 combats. Après, j'ai été au Desert Force. C'est là que j'ai commencé vraiment à faire mon expérience professionnelle. Et après, à un moment donné.
Sofiane, t'étais pas t'as, quand t'as commencé à l'OFC déjà, c'était quasiment, il y avait quoi? Il y avait de l'amateur là-bas, ou c'était directement en pro, t'étais déjà affiché chez Sherdog, tout ça?
Moi, quand j'ai commencé à l'OFC, il n'y avait pas encore les pros. Je crois que j'ai fait un ou deux combats et après c'était Sherdog direct.
Ouais, donc t'as fait de l'amateur, semi-amateur là-bas, donc t'as fait deux
Voilà.
combats et après t'es
En
passé
dans les
professionnel.
et après pro direct.
Ouais, t'avais pas beaucoup d'expérience en amateur.
Non, bah, comme beaucoup
Ouais, les
d'anciens. Ou...
anciens, ils disent souvent là, c'était pas comme maintenant, et c'était moins structuré, il n'y a pas trop de fédérations. Déjà, en France, c'était même pas légalisé, c'était du pancrace.
Voilà.
C'était un peu à la sauvette, quoi.
Malgré qu'on a un peu tous le même âge, Mika et tout, eux, Mika, on va dire, c'est les plus anciens encore. Mais nous, on était, t'as vu, c'était pas trop structuré.
Waouh!
Et puis
Mais les
bon,
gars, c'est un délire!
à un moment donné,
Pour
j'ai
moi, il m'a
décidé de changer
choqué complètement.
parce que ça me correspondait plus. Il y a beaucoup de choses qui me correspondaient plus, où je me reconnaissais plus. Et du coup, ben, j'ai atterri là où je suis depuis maintenant un bon 3 ans, à AFC Talbi, et là
Sept titres.
où j'ai trouvé vraiment
Un
un vrai équilibre, ou un vrai kiff, ou tu vois, je suis
kiff.
à AFC Talbi, je suis aussi en relation beaucoup avec le NR Fight, où il m'accueille, tu
Nicolas
vois.
Rennes.
Chez Nicolas Régnier, où je suis très bien accueilli par Johnny Frachet et tous les membres du club là d'ailleurs. Yassine Wakil aussi, qui s'occupe de moi de temps à autre, avec Rémi Physio pour la prépa,
Absolument,
ici pour la prépa. et je dois sûrement encore en oublier, excusez-moi, mais beaucoup de gens auxquels j'ai pu me greffer et qui m'ont apporté énormément, toi.
Ouais, t'es en pleine aventure, t'as fait plein de rencontres via les compétitions, via les entraînements, via les déplacements, tout ça.
Voilà.
Et tu disais, après, je sais pas si tu veux en parler ou pas en parler, hein, mais que tu disais que à un moment, t'es resté à Villeneuve-d'Ascq, t'as bien progressé par rapport à tes débuts, et à un moment, tu prenais plus de plaisir, que c'était pas trop ça, tu te reconnaissais plus. Et c'était dû à quoi? Aux entraînements, aux collègues d'entraînement, aux coachs, les horaires, je sais pas, moi.
En fait, c'était un peu tout, mais grosso modo, je me sentais plus du tout progresser, tu vois. Après, j'étais un peu freiné par le fait de, tu vois, que c'était pas une mentalité où, genre, aller tourner dans d'autres clubs, c'était bien. Tu vois ce que je veux dire?
Ils étaient pas trop dans le partage.
Pas trop, c'était pas trop, à la fin, je me rendais.
L'ouverture.
C'était pas trop de partage, c'était pas trop d'ouverture, pas trop de, ouais, c'était comme je dis.
Ouais, un peu relou et t'as voulu changer.
Voilà, après l'ambiance, elle me plaisait plus, donc j'ai dit, ben, stop, toi. Après, comme on dit, t'as vu, il faut pas cracher dans la soupe, c'est-à-dire, j'ai appris énormément, j'ai découvert beaucoup, j'ai découvert mon sport par là, surtout avec les compétitions que j'ai pu faire. J'ai connu des gens bien, comme des gens qui m'ont pas marqué. Il y a des gens que j'ai oubliés déjà, et il y a des gens que j'ai pas oubliés, toi, qui sont toujours là. Et puis voilà, toi.
Ouais, il y a eu, ouais, c'est une belle aventure qui continue encore maintenant, où forcément, il y en a, ils prennent d'autres chemins, il y en a que tu gardes contact en bon terme.
Il y en a d'ailleurs, t'as vu, qui nous... Moi, quand je suis parti du club, je suis parti avec Karim, que tu connais aussi. J'ai commencé avec lui, toi. Lui avait commencé bien avant moi, mais moi, je viens avec lui, parce que quand j'ai commencé, ben, il était là. Il y a d'autres personnages comme...
On sent que tous les deux, il y a un peu une complicité, hein, toi et Karim.
Ben, Karim, t'as vu, il m'a appris beaucoup. Après moi, Karim, t'as vu, sur certaines choses, je peux lui apprendre aussi de trucs, toi. On est complémentaires et en fait, tu vois que la relation, elle est vraiment saine, toi. Il n'y a jamais rien eu de mauvaises pensées, trucs entre nous et tout.
Ouais,
que tu sportes bien, moto, truc, toi, quand je pars, ben, j'ai besoin de lui, quand il part, il a besoin de moi, truc, voilà, toi.
C'est bien, ouais, vous tirez vers le haut et vous progressez l'un l'autre, quoi, en vous partageant des choses.
Voilà.
Ouais, c'est bien. Soufiane, on va passer, tu combats le 4 juin au Havre, à l'organisation du MMAGP. En moins de 77, Walter Welt, hein, c'est ça. T'as signé là-bas combien de combats? Un seul? Plusieurs? Un seul? Ouais, ça t'intéressait pas plus, peut-être?
Bah, après, eux, ils ont proposé un combat, donc on a fait un combat. Après, c'est toi, Jeunesse, bah, toi, pareil, toi, du fait du changement de club et tout. Au fil des connaissances, j'ai connu Adrien. Donc Adrien qui est le collègue à Aldric, et eux, en fait, c'est Résilience Management. C'est eux qui gèrent Manon Furo. C'est eux qui gèrent Manon Furo. C'est eux qui gèrent beaucoup de gars de Marseille.
Ah, comment il s'appelle
Brassard.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Où t'es parti, là, récemment, là.
Voilà, et en fait, ben, il m'appela à toi, il me place en one shot et tout. Après, si un jour, il y a une organisation qui propose un multi-fight et que lui, il juge que c'est intéressant, il me conseille de trucs, je le fais, mais pour l'instant, c'est que un combat.
Un seul combat, ouais. Ouais, bah, c'est bien. Tu t'entends bien, je suppose, avec ton management, là.
C'est vrai. Comme je dis, c'est un gars comme nous, toi. C'est un gars qui a, c'est un Marseillais, mais qui a la même mentalité que nous, truc. il est cool, je fais tout pour pas lui casser la tête. Lui, il me casse pas la tête.
Alerte coronavirus.
Hop, hop, c'est l'instant pub. Merci de nous écouter sur Blabla Podcast. Hein. Blabla Podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. etc. Merci de aussi de vous abonner hein, où je vais mettre toutes des interviews de combattants MMA professionnels de chez nous. Hein. Et pas que, mais en priorité quoi. Aussi on a un compte voilà Instagram où je mets du contenu de l'UFC exclusivement où aussi je vais mettre des stories, des vidéos des compétiteurs de chez nous hein, quand ils combattront à l'ARES et un peu partout en Europe. Donc n'hésitez pas à nous suivre hein, où je vais encore mettre aussi des podcasts avec des combattants MMA professionnels de chez nous. On va parler de leur expérience, leurs ambitions, leur focus, hein, comment dire ça, leur objectif tout simplement, voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci, merci. On continue avec le combattant MMA professionnel Soufiane Oudino, alias le Bouzoulouf. Merci.
Je prends tout au jour le jour, la vie au jour le jour. Là, ils m'ont signé pour un, ben je viens pour un, et on verra ce qu'il y aura demain, toi. Je ne me pose pas de questions. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis venu pour combattre. Je suis là pour gagner. Et toi, sans question, sans pression supplémentaire, on va dire.
Ouais. Et MMA GP, c'est la combien d'éditions là? Je crois que c'est la troisième, hein, ouais.
MMA GP, attends, c'est la. Non, c'est la quatrième, il me semble.
C'est la quatrième.
Yo. Il me semble que c'est la quatrième.
Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller soutenir Soufiane. Hein. Déplacement, il y a quoi, il y a genre tu peux acheter des tickets ou quoi ou
tickets, ouais sur WizEvent MMA GP, c'est au Havre, du Havre.
Donc lâchez la petite carte de crédit là pour Soufiane, il va mettre le feu comme d'hab. Donc t'as signé un combat et après selon ce qui va se dérouler, tu vas voir ce qu'il te propose. Nous, on te souhaite la victoire, Inch'Allah. Voilà. Et niveau du MMA GP, ça va là, le niveau des fighters qui vont là-bas? C'est quand même bien coté en France, hein, le MMA GP.
Bah quand même, hein, le MMA GP, ouais. Si tu regardes, t'as des combattants comme. T'as qui est passé là-bas? T'as Lunai, t'as. Michael Lebout, il y a Kevin Fall qui est passé là-bas.
Il a pas fait MMA GP. FFA.
A fait Samusine qui a combattu là-bas. T'as toi et là, ben, un peu sur celui-ci, toi, t'auras le banner, t'as toi.
Ouais, t'as une belle carte. Et maintenant que on a des organisations là de plus en plus en France, c'est légalisé, il y a plus en plus d'orga qui pousse. On a dit là le MMAGP là, c'est Arès, il fait un combat, une orga, enfin un event par mois. T'as Hatch, vraiment avec MMA, avec Cage, avec Frappe au sol, tout ça. Ça change quoi, toi, par rapport à ce que t'as connu, Soufiane, le MMA où tu devais te déplacer minimum en Belgique et même dans d'autres pays, je sais pas, pays de l'Est, j'en sais rien. C'est quoi la différence entre maintenant, c'est une évolution, c'est bien, c'est peut-être une pression en plus parce qu'il y a peut-être l'entourage ton ressenti?
Au contraire, tout y est bien parce que même les organisations, tu vois que certaines, elles se professionnalisent au max. Tu vois que le ARS, il fait les choses quasiment à l'identique de l'UFC. Les combattants, ils viennent 4-5 jours à l'avance. Ils ont une chambre d'hôtel dans un bel hôtel. Ils ont un petit cachet pour manger. Ils ont des belles primes, des belles photos, toi, de présentation.
Excusez-moi.
Merci. Donc, et tu vois que ça, c'est
quand même, hein.
C'est analyse et c'est fait pour motiver, toi, les gens, toi.
Ouais. Et du coup, là, vu que, comme tu dis, au niveau organisation, au niveau image, au niveau prime, confort et tout, limite pour les Français maintenant, les jeunes, là, les 2.0, 3.0, là, qui commencent, enfin, ça fait un ou deux ans qu'ils sont professionnels, ça sert plus à rien de combattre limite à l'étranger, je sais pas moi, en République tchèque, en Angleterre.
Après, ça dépend le point de vue, tu vois. Mais par exemple, moi, comme je dis, combattre en France, c'est bien. Mais à l'étranger, si t'as les capacités et que t'es prêt, parce que toi, à l'étranger, il y a aussi beaucoup de talent. Ça donne l'occasion, toi, de voyager, tu vois. Moi, comme je dis, le MMA, c'est un sport qui m'a fait beaucoup voyager, que ce soit, pour moi, ou en accompagnant, toi. Moi, j'ai déjà été dans des pays, jamais j'aurais cru qu'un jour j'irais. J'étais en Estonie, j'étais au Liban, j'étais en Ouzbékistan, j'ai des gens, j'ai rencontré des gens. Donc, pour moi, les deux, ils sont bons à prendre. Après...
Ouais. Il y a le côté valeur, découverte quand tu vas à l'étranger, quoi.
Voilà.
C'est ça qui est bien par rapport à, enfin c'est bien aussi de combattre à domicile, mais il y a toujours un bon aspect de voyager, quoi, de découvrir d'autres choses, hein, d'autres cultures, hein. Voilà. Ouais, donc là Sofiane, on avait dit que tu combats le 4 juin au Havre, au MMAGP. Donc forcément là, c'est bientôt là, on est le 26, c'est dans une semaine, bah ouais. Donc là, je pense que t'es en mode affûtage là, t'es en mode de, enfin t'es sur la fin de ta préparation physique, on va dire.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Comment que ça se passe? Enfin, ouais. Du moins ta prépa physique, comment elle s'est passée vu qu'on est sur la fin?
Elle s'est bien passée, top, toujours comme d'hab, toi avec le CrossFit LBL. En suivant la prépa à Rémi Physio, avec le combat à l'AFC, Dani, Lies, SB.
SB,
nous, comme d'hab. Donc, top, tu vois. C'est comme tu dis, l'affûtage, on perd les derniers kilos. Puis voilà, le reste, le travail a été fait.
T'as combien, toi, là, maintenant?
Là, je suis à 82.
82. Et en moyenne, hors compétition, t'as combien?
Je monte pas beaucoup, moi. Si je monte le plus que je vais monter, à 85.
Ouais, 85. Ouais, c'est du 7-8 kilos, autant en moyenne que même pas, quoi. Ouais. T'es pour justement, toi, les mecs qui cut des 15 kilos, c'est limite, ils combattent deux catégories au-dessus de leur, c'est pas bon, ça.
Bah, après, chacun.
Hydratation et tout.
Chacun, moi, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas contre du tout ça, mais par contre, je suis contre le dopage. Parce que c'est sûr que un mec qui cut 15 kilos et qui se dope en plus, frère, quand il revient à plus 15 kilos, il revient avec une force de plus 15 kilos aussi, toi.
Ouais, plus les bonbons qu'il a pris, ouais, c'est sûr. Ouais.
Ça, c'est de la triche, toi. Donc, on va dire plus contre le dopage que contre le cutting, toi.
Mais ça, moi, j'ai un petit avis. Moi, j'ai jamais vu. Je sais pas. Je côtoie pas ce milieu. J'ai jamais traîné dans des vestiaires ou traîné avec des mecs bizarres, quoi. Mais je pense que, honnêtement, quand tu vois, admettons, on va prendre, voilà, le top du top, l'UFC, les combattants UFC. C'est sûr qu'il y a du dopage quand tu vois des corps pendant le jour de la pesée, tu les vois 24 heures plus tard, on dirait c'est un autre gars, tu vois, certains, pas tous, hein.
Il y a du dopage. Mais aux États-Unis, il y a des seuils autorisés, t'as compris? Donc certains, ils jouent avec les seuils. Au final, ils sont tous dopés, tu vois. Même s'il y en a plus que d'autres, ils sont tous dopés.
Et moi, c'est sûr ça. Enfin, il y en a 90% sûrement. Mais moi, je pense que ça a tellement d'impact, le dopage, un impact. C'est pas bon, hein, attention. Hein, mais c'est un impact positif pour l'orga, tu vois, pour l'organisation, Pourquoi? Bah parce que déjà c'est adopé, sans le dire, hein, ils savent, adopé contre sûrement un autre dopé. Et le fait que t'as des Golgotes, forcément plus forts et plus résistants que la moyenne parce qu'ils ont pris des bonbons, tu vois. Et ben ça fait de l'entertainment, ça fait du show, tu vois. Et du coup, on ferme un peu les yeux, tu vois. On ferme un peu les yeux parce que ça pousse la performance, si tu veux, tu vois.
Ouais, mais après quand t'arrives à un niveau où t'as les salaires qui suivent, après j'ai envie de te dire, nous ici quand on a commencé les trucs, les compétitions qu'on fait, quand t'as des mecs qui se dopent pour des combats ici bidon ou tout, et au final, comme tu dis, ça l'UFC par exemple, ça va leur servir, mais les athlètes eux-mêmes, ça les sert même pas, tu vois, ça leur sert pas.
C'est sûr.
Il y en a combien qui se blessent fort parce que t'as vu, ils poussent leur corps trop. Il y en a combien sur qui ça joue sur le psychologique, tu vois, c'est.
C'est sûr ça. Et du coup, là, t'as fini ta prépa, là, t'es en affûtage. Quand en préparation, là, quand tu t'es, tu fais une préparation genre quoi, un mois avant la l'échéance, toi, c'est comment?
Ouais, un mois et demi. Quand un je mois, sais, un mois et demi. Un mois et demi, deux mois, ouais.
Voilà. Du coup, bah, dans cette période-là, un mois et demi, deux mois. C'est quoi ta charge d'entraînement, toi, Sofiane, par rapport à où tu sais que t'as pas de combat qui va arriver? C'est quoi qui change de, ou bien peut-être c'est la même chose, hein, peut-être ta routine d'entraînement, ta charge d'entraînement, c'est la même si t'as rien comme si t'as. C'est quoi ta charge, toi, d'entraînement quand il y a une échéance, admettons, par rapport à l'ordinaire? Il y a quoi de plus?
Ma charge, elle reste la même. À un ou deux entraînements près que je vais supprimer quand je suis pas en combat, toi. Par exemple, le samedi, ben, je vais pas m'entraîner du tout. Samedi, dimanche, je suis en repos. Alors qu'en prépa, je le suis. Mais c'est surtout au niveau de l'intensité et du volume.
Ah ouais, c'est un peu plus poussé.
C'est-à-dire que, même moi, par exemple, hors combat, je m'entraîne bien et sérieux parce que c'est comme ça que tu progresses. Mais, par exemple, dans les sparring, moi, je fais pas de sparring dur ou je tape fort. Mais ouais. Pas d'intensité. Je mets d'intensité, mais voilà.
En fait, j'essaie de
garder mon capital santé. Parce que tu peux pas être toujours à fond, toi.
Ouais, c'est sûr. Et c'est mauvais. Et après, vers la fin de carrière, forcément, il y aura des séquelles. Hein, tu peux pas faire des sparring tout le temps comme ça. Donc plus ou moins, ouais, c'est kiff-kiff. Il y a que l'intensité qui. Ouais. Ok. Et là, donc tu vas. Attends, hop, je vais aller sur Sofiane, sur ton adversaire là. Hop, qui s'appelle David Karp, c'est ça?
C'est ça, ouais.
C'est bien ça, hein, Sofiane. Et donc voilà. Toi, t'es quelqu'un qui focus, qui te focus sur ton adversaire. Genre, je sais pas moi. Je vais prendre l'exemple de ton futur adversaire, David Karp. Eh ben, je sais pas si j'ai jamais vu combattre. Hein, mais si c'est un, je sais pas moi, si c'est un striker, est-ce que tu vas t'adapter, toi, ta prépa, ton game plan, voilà, tu vas t'adapter par rapport à ses qualités? Ou bien tu t'en fiches, tu te focuses que sur toi. Moi, c'est Sofiane, je suis bon dans ça, je m'en fiche, l'autre c'est un lutteur, un striker, un grappleur, je me focus à chaque fois sur moi.
Non, je suis toujours, tu t'analyses l'adversaire et tout, ouais. Et tu sais ce que tu dois faire, ce que tu dois éviter, ce que tu dois pas faire, et après pour le reste c'est parti.
Ouais, donc tu y a une analyse de quand même de l'adversaire. Et tu t'adaptes par rapport à ses qualités, forcément ses défauts.
Voilà.
Ok, nickel. Et toi, tu te considères comme quel genre de combattant? Plus un striker, plus un grappleur, la lutte en prédominance, ou bien t'es vraiment un combattant MMA, quoi?
Bon, moi, j'estime que je suis un combattant MMA qui excelle pas dans la boxe, qui excelle pas dans la lutte, qui excelle pas dans le grappling, mais qui aime tout faire.
Qui aime tout faire. Ah. Parce que là, t'as quand même des finalisations, toi, hein, Sofiane, hein.
Alerte coronavirus.
Hop, c'est l'instant pub. Merci de nous écouter sur Blabla Podcast. Hein. Blabla Podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. etc. Merci de aussi de vous abonner, hein, où je vais mettre tous des interviews de combattants MMA professionnels de chez nous. Hein. Et pas que, mais en priorité, quoi. Et aussi, on a un compte Instagram où je mets du contenu de l'UFC exclusivement, où aussi je vais mettre des stories, des vidéos des compétiteurs de chez nous, hein, quand ils combattront à l'ARES et un peu partout en Europe. Donc n'hésitez pas à nous suivre, hein, où je vais encore mettre aussi des podcasts avec des combattants MMA professionnels de chez nous. On va parler de leur expérience, leurs ambitions, leur focus, hein, leur objectif, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci, on continue avec le combattant MMA professionnel Soufiane Oudino, alias le Bouzoulouf. Merci.
Quand il y a des phases au sol, quand le mec est en top position au-dessus, il cherche pas à passer, tu vois. Lui, il essaie de... Surtout, ce que je remarque, c'est d'être fort sur ses bases pour éviter les renversements solides. Mais il cherche pas. Enfin, il bloque un peu, tu vois, il bloque le jeu. Il reste dans voilà. Après, c'est méthodique. Hein. Il reste fort sur ses bases, bien stable, frapper, bloquer, frapper, mettre des coups, tu vois. Il joue la tactique, hein. C'est pas ouvert où on essaye de passer une garde, de passer une demi-garde, prendre une montée, ou tu vois, ou un latéral. C'est si on peut, bien sûr, ils vont le faire, les combattants, mais on remarque plus maintenant quand il y a un adversaire, il est bloqué dans la garde, les fighters, ils cherchent pas à passer, quoi. Ils restent au-dessus. Ils ont les points de dominance avec les frappes, mais ils cherchent pas à passer ou à finir. On cherchait de monter, hein, tu vois. Donc maintenant, c'est les finitions, c'est beaucoup les prises de dos avec des étranglements arrière, hein. Et là, on voit aussi des brabos, des darks, tu vois, sur des phases de sprawl, tu vois, sur des scrambles ou du sprawl sur une attaque de leg, tu vois, boum. Ça, on voit beaucoup ça, mais il n'y a pas de clé de talon, il n'y a pas de kimura, tu vois, ça passe plus, ça. Et puis même, quand quelqu'un qui est en top position, je sais pas, il part sur une clé de talon, il va réfléchir à deux fois, parce que si elle passe pas, il se retrouve en dessous, avec c'est une grosse merde après, quand le mec il se met au-dessus et il commence à frapper, il perd ses points, quoi, tu vois. Donc c'est un peu plus fermé, quoi. Donc voilà, on était là. Sofiane, quand tu c'est 7 jours J, là, le jour de la compète et tout. C'est quoi ton état d'esprit? T'as un peu le stress, l'adrénaline, t'es patient, impatient,
Le stress, l'adrénaline, tout le monde dit là.
Ouais, ça c'est normal.
Tout le monde dit là. Et moi, c'est vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, t'as vu, je prends tout comme la vie, t'as vu, c'est moi qui a décidé d'être là. Donc, j'attends l'heure, t'as vu, je regarde, c'est à telle heure, ben j'attends l'heure, je vais. Je fais ce que j'ai à faire et puis voilà, toi. Tout simplement.
Ouais, et ça va, le mood, il est bien ou...
Il est bien, oui. Mais après, je suis quelqu'un... Moi, quand je combats, t'as vu, je suis un petit peu... Façon de parler, je parle plus. C'est-à-dire...
Tu te mets dans ta bulle.
Ouais, dans ma bulle. Une heure et demie, deux heures avant, presque, t'as vu, ça, il n'y a plus un mot qui va sortir jusqu'à le combat, toi.
Ouais, le matin, ça va ou t'es un peu...
Toute la journée, ça va. Et c'est vraiment à l'approche du truc, 1h30 à 2h avant, je suis... Ça y est, toi, on dirait... Je change de personnage.
Ouais, ouais, ouais. En mode... Je vais combattre, quoi.
Voilà.
Ouais. Soufiane, maintenant, ça te fait quel âge, maintenant?
38.
38. Les bags, tiens.
Netflix.
Donc 38, c'est quoi maintenant ton but, Soufiane? À 38 ans, tu sais qu'il va pas te rester non plus 10 ans dans la MMA, je pense pas, enfin un peu après sure. Peut-être. Mais tu prends jour le jour ou bien tu te fixes un âge ou tu te suis c'est tant que la tête ça va, même si j'ai la quarantaine passée, je continue la compète. Comment tu te sens maintenant? Enfin, à peu près la vision que t'as.
Moi, je me sens bien. Là, je me sens très bien. Tant que Dieu, il me permet de continuer, je continue. Tu vois, parce que je suis pas non plus, j'ai 38, mais il me manque pas un bras, j'ai pas de...
Non, t'es bien. Non, t'es bien. T'as même tes gars, ils ont 22, 23, ils sont déjà flingués.
T'as compris, donc c'est ce que j'allais dire, toi. Il y a des gens bien plus jeunes que moi qui ont bien plus de blessures. Alhamdoulilah, je fais attention à tout. Je mange bien, je m'entraîne bien. Moi, je me suis fixé quand même des objectifs, c'est-à-dire que, en fait, de parler des anciens choix, je me suis un peu pénalisé, dans mon palmarès, pas dans ma carrière. Mais c'est pas, parce que pour moi, c'est des choses qui sont enregistrées et qui pourraient me permettre de prévenir, par exemple, un petit jeune que j'aimerais bien et que j'ai pas envie qu'il fasse les mêmes erreurs que moi. Donc, ça, je le prends pour moi et ça peut servir pour quelqu'un. C'est comme ça, ça arrive. Mais j'ai encore comme objectif de pas viser l'extrême haut niveau. Ça serait hypocrite de ma part de dire ouais je viens pour un UFC, pour un loin de là, mais je suis encore là et pour dire que je veux performer, toi.
Ouais, tant que dans la tête ça va, et physiquement bien sûr aussi, il n'y a plus de limite.
Je me donne les moyens, et ça t'as vu, je le dis sans toute modestie, toi, c'est je sais que tu peux me ramener beaucoup de gens en France en tout cas. Il y en a un peu qui s'entraînent comme moi. Après l'entraînement, on va pas faire de toi le plus grand des combattants, mais en tout cas, t'as vu, moi, je suis dans mon move, je suis dans mon truc, je kiffe. Et puis voilà, t'es.
Voilà, ok. Maintenant, tu dis que t'es à la Team Talbi, Team AFC. Comment que ça se passe là-bas, Soufiane, avec tes collègues, tes sparring partners, les jeunes là, que tu vois arriver depuis peu? L'encadrement, l'infrastructure, comment que ça se passe là-bas?
L'encadrement, l'infrastructure, elle est nickel. D'autant plus que l'année dernière, en plus de la Team Talbi, il y a eu donc le club AFC qui s'est créé. Et en fait, t'as les mêmes adhérents, les mêmes pratiquants. Sachant qu'on a eu une belle salle à Roubaix, que t'as pu déjà voir. Où tu
ouais, avec l'octogone, une salle de tatami où il y a que des tatamis.
SB avec Mohamed Kamala, avec Dani, avec moi, avec Mohamed, donc président du club. Ils ont fait vraiment, avec Daoud aussi.
Ils font du bon taf.
Voilà, avec l'IS, c'est tout pour le truc. Vraiment, vraiment, super bon taf. Donc l'encadrement est nickel. Au niveau des pratiquants, comme partout, t'as des intermittents du spectacle, des gens qui viennent, qui sortent, qui partent. Mais bien souvent, c'est même pas souvent, c'est chez nous, t'as vu, c'est chez les pros, on a vraiment un groupe que, et sans regret et sans frustration de ma part, je me dis que si j'aurais eu ce groupe toute ma carrière, je suis J'aurais peut-être mieux fait. Je parle pas de choses
écoutées, je suis pas calé. Ouais, sûrement.
Mais j'aurais mieux fait, c'est-à-dire que des meilleurs choix, moins de blocage à un moment donné, moins toi. Et le groupe, c'est qui? C'est Abderrahman, le groupe pro. Abderrahman, Timous, Anthony Salamone, il y a Bison qui s'est greffé au groupe, il y a Karim Rabehi, J'en oublie pas, il y a qui encore tac, 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 tac. Et en fait, il y a plein, hein, tu vois, regarde, t'as même des petits jeunes qui sont pros en K1, comme t'as Lounis, t'as Magic,
Nissing, ouais.
T'as Marouche, t'as Maxime. Toi, en fait, il y a plein de gens, et même les gens qui sont juste en dessous, au niveau des amateurs, t'as des gars comme Samir, t'as des gars comme Terence, t'as des gars comme Bibil, comme Ali.
Toi, Michel Gartet.
Michel Gartet, j'ai oublié, alors que Michel, c'est un des gars que j'ai rencontré et que j'ai connu vraiment l'année dernière. Et t'as vu, c'est un gars qui...
Ah, c'est une bonne personne, hein, je peux dire. La vérité, c'est une bonne personne.
Les gars, ben, tous ces gens-là, toi. Et en dessous, t'as les petits amateurs comme les Brandon, les Laurentins, les Samini, toi, et tous ces gens-là qui viennent. Et en fait, ça crée vraiment un groupe.
L'alchimie.
Tu viens, on est ensemble, c'est bien. Dehors, on s'élève, on cherche par les trucs, c'est bien. Mais ça, toi, ce que je veux dire.
Ouais. Et Sofiane, justement, avec les nouveaux jeunes là que tu croises depuis un an, qui veulent bien progresser, bien monter, là, ils sont à l'écoute de vous, les anciens, les compétiteurs et tout, ou bien ils disent qu'ils se racontent ce vieux con, tu vois.
Ils sont très à l'écoute, ils sont reconnaissants, gentils. C'est comme je t'ai dit, t'as vu, c'est vraiment, comme on dit, une atmosphère qui fait que...
Ça se passe bien.
Ouais, ça se passe super, super bien. Même quand il y en a qui combattent, ça bouge, ça truc, ça... Nickel.
Ouais, tout va sur des roulettes. Ouais. C'est bien.
Alerte coronavirus.
Hop, c'est l'instant pub. Merci de nous écouter sur Blabla Podcast. Hein. Blabla Podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. etc. Merci aussi de vous abonner, hein, où je vais mettre toutes des interviews de combattants MMA professionnels de chez nous. Hein. Et pas que, mais en priorité, quoi. Et aussi on a un compte Instagram où je mets du contenu de l'UFC exclusivement, où aussi je vais mettre des stories, des vidéos des compétiteurs de chez nous, hein, quand ils combattront à l'ARES et un peu partout en Europe. Donc n'hésitez pas à nous suivre, hein, où je vais encore mettre aussi des podcasts avec des combattants MMA professionnels de chez nous. On va parler de leur expérience, leurs ambitions, leur focus, hein, leur objectif, tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci, on continue avec le combattant MMA professionnel Soufiane Oudino, alias le Bouzoulouf. Merci.
Volume, ça y a débité pas mal, avec un striking, un cardio de fou. Donc là, je pense qu'il y a... Il était fâché, enfin, nous, il y a pas dans le Nord, il y a pas à prouver quelque chose. Il est connu ici, tu vois.
Il y a pas à prouver parce que même il est connu. Mais sans manquer de respect aux autres, parce qu'après chacun il y a sa façon de faire et tout. On voit par exemple, trouve-moi quelqu'un dans le Nord qui a mis autant de débit que lui dans le MMA.
Non, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, ça sort de partout, hein.
Y a personne qui l'a fait, tu vois. Y a que TJ Dillashaw qui l'a fait à l'UFC, il était sous le PFC.
C'est le même genre, ouais.
Compris. Mais ça, et tu peux voir que si par exemple à l'EBD il s'est fait ramener à fond au sol, ben là à la reste, tu vois, il a travaillé, il a progressé sur ça. Et là, ben le sol, je crois, il a vu une ou deux fois et à peine, toi.
Il y avait même une brabo à un moment, elle était bien placée là sur son fight là.
Il a pas réussi à finaliser. Il était Léo au Paul, je l'appelle Léo parce que bon, c'est un petit que je connais et que j'apprécie aussi bien. Il s'était pris, mais il a réussi à sortir, toi.
Et donc il a fait une très belle même prestation en l'ARES. Juste avant son combat, ça parlait beaucoup de lui sur les réseaux, sur YouTube. Il parle pas assez de lui. Il parle de comment il s'appelle le Breton, le Ragnar le Breton, le Dieu. Voilà ça. Qui était pas en main card, qui était en prélims, tous ces blabla là. Bon, je pense que voilà, il a montré à plusieurs personnes qui avaient le niveau déjà. Son palmarès et les ceintures qu'il a gagnées, surtout à l'EBD, quoi, tu vois. Voilà. Et les prestations, donc c'était pas un novice, tu vois. Il y en a qui disent c'est le futur, mais moi je dis c'est le présent, c'est pas le futur. Ça va être le futur, ouais, mais c'est aussi le présent, hein. T'es un 9-1 maintenant, tu peux pas être le futur. Enfin, t'as déjà 10 combats pro, tu vois. Donc, t'es pas le futur, t'es le futur, mais t'es le présent quand même.
Surtout hein? que Moussi fait partie des combattants qui a toujours été, et même dès le début, qui a toujours été dans le challenge, tu vois. Parce que même quand il était chez Hatch, frère, il se tapait des petits Renault tracés au laser comme jamais, tu vois. Il s'est posé des pêches de Bruce Picot, tu vois ce que je veux dire. Et au-delà de, il a été toujours à la recherche de la performance, tu vois. Il n'est pas arrivé là au hasard, tu vois.
Bah ouais, moi j'étais honnêtement un peu déçu qu'il était pas au moins la main card, tu vois, qu'il était en prélims.
Mais c'est pas grave ça, comme ça même les organisations ils apprendront de leurs erreurs, toi.
Ouais. Et donc voilà, après la prestation et tout le bazar qu'il y avait sur lui, les réseaux sociaux, ça. Après il a fait un appel du pied là à Taylor Lapillus, et je voulais savoir, toi, vu que tu le vois tous les jours à la salle, à l'entraînement, plus on te voit beaucoup aussi aller sur Paris faire des petites sessions d'entraînement, donc tu vois les mecs là-bas, les mecs comme tu dis, de NR Fight, à un moment t'es allé chez Hobby Fight, tu connais les mecs de là-bas et tout. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, c'est pas trop tôt de faire un appel du pied à Taylor Lapillus, vu par rapport à son expérience, les titres qu'il a gagnés, les ceintures qu'il a gagnées, la maturité déjà, l'âge, la différence d'âge, tout ça, tu crois que c'est pas un petit peu...
En fait, la façon dont il a fait cet appel-là, c'est tout simplement pour dire à Fernand Lopez qu'il n'y avait pas besoin de faire du bruit et de dire que si, que ça, de faire le buzz. Parce que, comme il a dit, il passe trop de temps à s'entraîner, plus de temps à s'entraîner qu'à être sur les réseaux. Mais c'était surtout une façon de lui répondre et de répondre aux gens que, lui est là, il s'entraîne pour, et que quand il devra le prendre, quand son entraîneur SB et l'entourage d'Ani et tout, et son manager Guillaume Pelletier, ils auront décidé que pour lui c'est le temps, ce sera
l'heure, ouais.
C'était plus une façon de s'affirmer, de dire que je suis là, je m'entraîne et voilà tout.
Voilà, parce que juste après là, en conf là, il y avait Fernand Lopez, il disait l'appel du pied de Mousse. On attend une réponse de l'UFC pour Taylor, mais si Taylor n'a pas la réponse pour l'UFC d'ici septembre, on fera le... Si maintenant, comment il s'appelle, Fernand, l'UFC appelle pas Taylor, Fernand appelle, organise le fight pour septembre, ça...
C'est son manager qui décidera, c'est son manager qui choisit les combats avec les entraîneurs et tout, et ce sera à eux de voir si
c'est... C'est d'envisager le truc, ouais.
Comme il a dit Mousse, il a fait une interview juste après, et il a dit, dès lors que c'est du lourd, ça reste du lourd, c'est du costaud, et puis voilà, t'as vu, c'est pas non plus... Lui a dit ça, comme je t'ai dit, pour répondre, t'as vu, aux attaques, on va juste dire, des... toi, mais aux attaques, aux... aux provocations déguisées.
Ah,
c'est pas lui, c'est pas lui le décideur. Même si c'est lui qui combat, c'est pas lui le décideur, et ça il sait, toi.
Ah, ok. Super, merci Sofiane. Je sais pas si t'avais peut-être quelque chose à ajouter. Là on a à plus de 50 minutes sur le podcast. On a bien blablaté, t'as vu. Moi c'est tout pour moi. J'ai encore appris beaucoup sur toi là, Sofiane. Je te remercie d'avoir accepté à la dernière minute l'invite.
On m'avait déjà invité, j'avais pas pu à cause des trucs et tout. Donc ouais. C'est pour ça que je me devais de pas refuser. Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir accepté. Je sais pas, t'avais peut-être un dernier truc, peut-être j'ai zappé ou quoi à dire.
Comme tu disais, là il y a moi qui combat là donc la semaine prochaine. Mm-hmm. Une semaine après ou 15 jours après, il y a Selim Bizon qui combat aussi à Bruxelles. Ouais. Et après c'est à Bruxelles.
À Bruxelles, ouais.
Ouais.
Faut que je le contacte, lui demander justement faire un petit podcast avec lui, parce que lui je le connais pas du tout, hein. Je l'ai jamais vu à la salle, j'ai jamais vu.
C'est un petit que moi j'ai connu à Villeneuve-d'Ascq, et qu'après on s'est recroisé, ben là il m'avait demandé pour venir, donc il est venu, toi.
Il y a quel âge? C'est un jeune.
Salim, je crois, doit avoir 25, je crois.
Oh, ça va.
Ça va, toi. Et après, il y a, hormis les compétitions amateurs, il y a aussi, c'est Anthony Salamone qui combat le 25 à l'Arès.
Ouais, et là, c'est la carte avec Abdoul et Karla Moussou.
Voilà.
Ouais, là, ça va être une grosse carte, là. Je me demande si c'est pas la plus grosse carte qu'ils ont fait à Arès, là.
Si. Donc ça, et en attendant le retour de Karim et de Remus et de surtout de Abdelrahman.
Ouais, alors lui tu sais pas où s'en est, où lui, s'il va combattre bientôt, s'il attend quelque chose?
Pour l'instant il y a rien. Ils s'entraînent bien. Il m'a beaucoup aidé aussi dans cette prépa, et inchallah j'espère je suis l'un des premiers qui espère à le revoir combattre bientôt.
Dans la cage, ouais. Ça doit le démanger, hein, lui.
Voilà, ouais.
Ça doit le démanger, ouais. Écoute, je te remercie beaucoup, Sofiane. On répète, Sofiane combat dans un peu plus d'une semaine, le 4 juin, au Havre, au MMAGP, en moins de 77 kilos. On lui donne beaucoup de force, on lui souhaite le meilleur, la victoire. Il revient chez nous avec la victoire. On va peut-être une petite interview de l'après-fight, peut-être, comment que ça s'est passé. Écoute, merci beaucoup, Sofiane, d'avoir accepté l'invite. Et on se capte bientôt. Bonne fin de prépa, d'affûtage. Repose-toi bien et sois en forme pour le jour J, hein, Sofiane. Hein.
Ah, merci. On va tout faire.
Ouais, ok, pas de souci. Merci beaucoup, Sofiane, et on se dit à plus tard.